Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes avec cette émission. C'est bon pour la santé sur Canal M. Mais en deuxième partie d'émission, c'est notre rendez-vous mensuel avec Florence Menet, elle qui est de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle nous parle entre autres de ce prix Wilder Penfield qui a été remis à l'un de leurs chercheurs, Michael Meaney, et également de cette recherche extrêmement intéressante sur le suicide menée par la docteure Joanne Renaud, qui tente à démontrer, entre autres, que si les différents intervenants, oui, en santé, étaient plus en contact entre eux, ils arriveraient à mieux intervenir auprès des gens en détresse. Je lui parle dans une vingtaine de minutes à peu près. Mais d'abord, d'après la Société canadienne du cancer, les enfants âgés entre 4 et 7 ans croient souvent que ce sont leurs actes, leurs pensées qui peuvent avoir causé le cancer de leurs parents. Évidemment, c'est assez facile de s'imaginer que de ressentir ça, ça nous amène à avoir des sentiments de culpabilité, de crainte, de détresse, d'angoisse. Et les enfants ont besoin d'exprimer leurs sentiments face au cancer, à la maladie de leur père ou de leur mère. Ils ont besoin d'un exutoire et de parler de ce qui se passe au sein de leur famille. Il y a un petit cahier qui vient de sortir et qui est publié par le Centre de bien-être de l'Ouest de Lille, un petit livre au sujet du cancer pour t'aider au travers des moments difficiles, qui peut aider les enfants et les parents, hein, bien sûr, par l'entremise, à parler de cancer. Mais également, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Kimberly Thibodeau, elle travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale du Centre universitaire de santé McGill. Pourquoi c'est important pour les enfants de parler de cette terrible maladie? Je vous la présente très bientôt. Bonjour Cassia. Bonjour Kimberly. Ben oui.
Vous savez, bonjour Marianne.
Bonjour. J'ai le livre de Cassia sous les yeux, Cassia Whitelaw, elle qui a écrit un petit livre au sujet du cancer pour t'aider au travers des moments difficiles. Et bon, mon lapsus est pas anodin en fait, Kimberly, parce que c'est vraiment ce bouquin-là qui nous a amené à se parler.
Oui.
Parce que il faut que je mette en contexte, bien sûr. Cassia Whitelaw a, à l'âge de 6 ans, vécu le cancer de sa mère. Elle a été bien sûr extrêmement touchée par cette expérience-là. Et maintenant, à l'âge de 19 ans, elle travaille au Centre de bien-être de l'Ouest de Lille et elle a rencontré là-bas une maman qui avait extrêmement de difficultés à dire à son enfant qu'elle souffrait du cancer, qui était complètement démunie. Et elle a eu envie, en fait, de se mettre à la place de cet enfant-là parce qu'elle s'en sentait capable pour l'avoir vécu elle-même. Et elle a fait cet exercice-là et ça se transmet dans ce livre-là. Vous qui travaillez comme travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale, vous rencontrez tous les jours des enfants, des parents endeuillés ou qui vivent la maladie d'un parent. Les enfants, est-ce qu'ils ont envie d'en parler, de la maladie de leurs parents?
Bien, je dirais que ça dépend. Et souvent, les consultations vont nous arriver en disant « Kimberly, j'ai une famille, le père vient de recevoir un diagnostic, ils ont des enfants de 3, 5 et 7 ans, faut faire quelque chose ». Donc, souvent, la première intervention, c'est, je pense, de s'asseoir avec les parents et de regarder comment eux sont à l'aise ou non de parler de leur maladie, hein, et comment ils réagissent à ce nouveau diagnostic-là, ainsi qu'aux traitements qui vont suivre ou aux traitements en cours. Et par la suite, c'est certain que la question vient, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Comment on en parle? Est-ce que je dois en parler et comment? Et une fois qu'on fait un petit scénario, un role-play en bon français avec les parents sur comment on peut se pratiquer à leur parler, à ce moment-là, s'ils ne sont pas capables de le faire seuls à la maison, moi, je vais les inviter à venir dans mon bureau et c'est là qu'on va s'asseoir avec eux pour justement en parler. Et moi, je vais agir tout simplement comme intermédiaire et les aider à faire parler les enfants ou à exprimer leurs émotions par rapport à tout ça.
Oui, parce que quand on souffre d'un cancer, qu'on a de jeunes enfants, c'est un petit peu difficile de le cacher. On va perdre peut-être nos cheveux, on va s'absenter, plus de fatigue, par exemple. Donc, les enfants, ils ressentent ça, j'imagine, beaucoup.
Beaucoup, puis les enfants vont réagir à ce qu'ils voient. Hein? Souvent, c'est très concret, si on parle surtout des enfants là, avant l'adolescence. Donc, pour eux, tant que leur routine ne change pas, hein, tant qu'ils continuent d'aller au ballet, au tennis, à la natation, pour eux, la vie semble bien aller. Lorsque tout d'un coup, leurs besoins primaires ou leur petite routine se transforme et change, comme « Ah, comment ça, je peux plus aller chez mon ami? Pourquoi je peux plus faire telle affaire? » Là, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a quelque chose de différent, mais ils ne parleront pas nécessairement clairement de la maladie ou ne feront peut-être pas le lien automatique avec « Ah, c'est parce que maman fait de la chimio, donc papa doit s'en occuper parce qu'elle est trop fatiguée et c'est pour ça que je ne peux pas aller jouer avec mes amis.
Oui. »
Et souvent, les parents vont dire « Coudonc, mon enfant est donc bien insensible. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Mais c'est ça, c'est que les enfants vont réagir à leurs besoins à eux qui sont soit pas comblés ou à leur routine qui est changée.
Oui.
Aussitôt qu'ils vont commencer à voir des choses concrètes comme la perte de cheveux, là, ils vont poser des questions plus précises par rapport à la maladie. Et c'est là que je dis souvent, quand les parents me disent « qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois expliquer? » Moi, je dis toujours « qu'est-ce que vos enfants vous demandent? » Je pense que c'est d'être à l'écoute et même de demander aux enfants « qu'est-ce que tu penses qui se passe avec maman présentement? Pourquoi tu penses que je perds mes cheveux? » Et à ce moment-là, ça ouvre la porte à donner des réponses aux enfants par rapport aux questions qu'ils ont. Parce que je dis souvent, dans notre tête d'adulte, là, on a de l'expérience, puis on se fait des inquiétudes des fois que les enfants ne se font même pas.
Oui, on va au-devant de leurs propres inquiétudes.
On va au-devant, puis à l'inverse, je dirais que si on n'en parle pas et qu'on tente de tout cacher, on dit tout le temps, quand les enfants ne savent pas, n'ont pas l'information, ils vont s'inventer des histoires.
Ouais.
Hein? Puis on sait surtout plus ils sont jeunes, hein, la créativité, là, ça va loin. Puis j'entendais dans l'introduction que souvent, les enfants ont tendance à se culpabiliser, hein, ou à dire « Ah, oh, l'autre fois, je me suis chicanée avec mon frère, puis là, ma mère est revenue de l'hôpital, puis elle était malade.
» Donc, c'est de ma faute.
« C'est de ma faute.
Ouais.
Si je m'étais pas chicanée. » Ou « Si j'avais fait mon lit. »
Aussi banal que ça. Kimberly, le livre de Cassia Whitelaw commence, en fait, la première page m'a beaucoup révélé sur ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. La première question, est-ce que je peux l'attraper? Ou encore, est-ce que je suis gentil? Un peu ce qu'on disait par rapport à faire son lit ou pas. Est-ce que si je suis gentil, si j'accomplis mes tâches, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on peut le détruire pour toujours, le cancer? Les enfants, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous entendez dans votre bureau?
Bien, je dirais, pour parler du livre de Cassia, je le trouve excellent dans le sens que je pourrais dire, pour l'avoir feuilleté, que tout ce qui s'y retrouve, je pense que je le vois dans la plupart des familles ou des enfants que je rencontre. Puis, une des premières affaires qu'on fait, c'est avec les enfants, c'est de démystifier le cancer et d'expliquer que ça ne s'attrape pas.
Oui, c'est pas contagieux.
C'est pas contagieux. Ça, c'est très important. Et quand les enfants disent est-ce qu'on peut mourir du cancer?
Oui.
Souvent, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que t'en penses, toi? Et là, ils vont me dire, ben oui. Puis là, des fois, ils vont m'expliquer toute une histoire. Puis là, les parents me regardent en voulant dire, mon Dieu, comment ça, qui c'est ça? Pourquoi? Parce qu'on l'a entendu à cause de la course Terry Fox à l'école, parce qu'il y a un professeur qui a été malade ou un autre enfant qui a perdu sa maman.
Est-ce qu'on écoute les conversations des adultes, même s'ils pensent qu'on est couché?
C'est ça. Même ça se passe dans les maisons. Souvent, on pense que les enfants nous entendent pas. Le téléphone sonne, une amie appelle, on parle des résultats, on parle de tout ce qui s'est passé dans la journée. Puis on fait pas attention. Et là, finalement, l'enfant a entendu quelques bribes de la conversation. Et deux jours plus tard, l'enfant nous arrive avec « Ah, oh, ben tu sais, l'autre fois », puis il pose une question, puis les parents se demandent d'où que ça vient. Mais c'est parce qu'ils ont été témoins d'une conversation.
Est-ce que, parce que le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. C'est pas mal la première définition. Et pour le protéger? Est-ce qu'il y a des parents, que vous entendez ça, qui refusent de parler de leur maladie aux enfants?
Il y a des enfants, des parents, oui, qui vont refuser. Puis j'ai même vu des parents qui refusent d'en parler à leurs enfants, même adultes. Hein? Mm-hmm. Donc, on veut protéger nos enfants, pas seulement quand ils sont mineurs, mais même à l'âge adulte, et j'ai déjà vu là, que ça pouvait causer beaucoup de conflits. Si on a la chance de rencontrer ces parents-là avant que les symptômes physiques soient plus apparents, à ce moment-là, on réussit, à apprivoiser le fait d'être capable de parler à son enfant de la maladie. Parce que si on n'en parle pas, de toute façon, l'enfant va ressentir quelque chose.
Oui.
On a déjà entendu ça, l'expression, là, les enfants, c'est comme des petites éponges.
Oui. Mm-hmm.
Que ce soit la maladie, que ce soit un conflit, une séparation, peu importe, ils vont ressentir une sorte de tension. Et des fois, les parents vont dire, ben là, je comprends pas, mon enfant est plus agité, là, il est en colère, d'habitude, c'est pas lui. Puis là, quand on pose des questions, pourtant, j'en parle pas. Et là, quand on questionne un petit peu plus loin, on s'aperçoit que les enfants ont vraiment capté des moments clés et ils ont raison de ressentir une certaine tension. Et c'est là qu'on fait beaucoup de psychoéducation sur les bienfaits d'en parler aux enfants.
Ouais, et d'en parler aux enfants amène probablement des bienfaits aux parents.
Oui, parce que les parents aussi, j'ai l'impression qu'ils se font beaucoup de peur pour rien. Une mère qui refusait de dire « moi, je vais perdre mes cheveux, qu'est-ce qui va m'arriver? » Et finalement, on a réussi à s'organiser pour que ce soit les enfants qui lui rasent les cheveux avant qu'ils tombent tout au complet. Et même la mère avait de la chimio et parfois ils retournent à la maison avec une petite bouteille qu'ils mettent là, soit dans une petite pochette ou qu'ils attachent carrément avec une épingle après un vêtement. Et finalement, la maman, avec sa petite fille, ont fait des pochettes qu'ils ont décorées ensemble pour mettre cette bouteille-là à l'intérieur. Comme ça, chaque fois que la maman revenait de son traitement, elle avait sa petite pochette décorative. Mm-hmm. Et c'était le traitement avec tous les effets secondaires qui sont désagréables puis qui amènent des changements dans la routine de tous les jours. Mais l'enfant se sent impliqué, se sent faire partie, en anglais on dit « journey », mais du parcours.
Mm-hmm.
Puis c'est ça le risque. En n'en parlant pas, c'est que les enfants aussi peuvent se sentir à part.
Oui, ce que j'entends, Kimberly, par ce que vous me dites là, c'est que l'enfant se sent impliqué encore dans la famille. Il fait encore partie de cette famille qui vit un défi, un grand défi à ce moment-là. Mm-hmm. Il faut qu'il s'adapte, il faut que tout le monde, tous les membres de la famille s'ajustent et c'est sa façon de le faire. Mais il en fait toujours partie, tu sais.
C'est de trouver des choses, c'est autant dans les paroles ou dans les mots qu'on utilise, je pense que c'est d'adapter le vocabulaire à l'âge ou au niveau de développement, au stade de développement de l'enfant.
Mm-hmm.
On ne parlera pas de la même façon à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent de 15 ans, par exemple.
C'est sûr.
Mais tu as des enfants de 8 ans qui se posent la question « qu'est-ce que tu penses que c'est la maladie de ta maman? » et ils me parlent comme des oncologues.
Ouais.
Donc ça aussi, des fois, ça donne d'autres indices, là, mais... on serait surpris des fois de savoir ce que les enfants, des connaissances qu'ils ont ou de l'interprétation qu'ils en font.
De façon plus concrète, on s'adresse bien sûr aux gens à la maison qui vivent peut-être ce défi-là. Ça peut être grand-papa, grand-maman, une tante, un oncle.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a un moment favorable pour parler de notre maladie ou de la maladie du conjoint à notre enfant, à nos enfants?
Bien, je dirais le moment favorable, idéalement, que ce soit le parent malade et son conjoint ou sa conjointe, qui sont ensemble, relativement calmes, qui eux-mêmes ont réussi à être quand même à l'aise d'en parler, puis de trouver une façon, puis de trouver un moment, je dirais, on n'annonce pas ça à nos enfants le matin avant qu'ils partent pour l'école, ou encore moins le soir avant de se coucher. Donc, souvent, ce que j'ai vu avec les familles que je rencontre, c'est qu'ils me disent « Hey, OK, samedi, là, on s'en va à la natation, puis en revenant, on se fait un petit dîner, là, on va s'asseoir ensemble dans le salon autour de la table, puis on va en parler.
Mm-hmm. »
Parce que j'ai vu que Alice m'a posé 3-4 questions, Tristan, lui, se demandait telle autre affaire. Donc, les parents se préparent, ça les met plus à l'aise, et là, ils vont choisir un moment où est-ce que ils ont moins de chances d'être dérangés. Et où est-ce que si jamais ça crée des réactions, autant chez eux-mêmes que chez les enfants, mais on va parler des enfants, qu'on a le temps après ça de s'occuper des différentes réactions.
Oui.
C'est sûr qu'on peut poursuivre tout de suite après avec une activité, mais on s'organise pas pour, je dirais, quasiment faire garder les enfants puis partir pour la fin de semaine.
C'est sûr. On prend tous les enfants en même temps ou un à un?
J'ai déjà vu les deux, puis je dirais souvent selon la catégorie d'âge. Je vais vous donner l'exemple d'une famille, une petite fille de 4 ans, 5 ans, avec les deux petits frères de 8 et 9 ans, c'est le papa qui a une tumeur au cerveau. Comment on explique ça? À ce moment-là, on s'est assis avec les quatre enfants.
OK.
Par la suite, les deux petits garçons, qui sont un petit peu plus vieux, avaient plus de questions, donc étaient plus verbales. Et là, on a vu important de rencontrer juste les deux petits garçons avec les parents pour qu'eux parlent un petit peu plus, étant donné que les petites filles de 4-5 ans, elles, pouvaient plus dessiner, jouer. Pour elles, pour l'instant, là, c'était moins pertinent, je pense, qu'ils soient là. Fait qu'on peut faire le mix des deux.
Il faut, j'imagine, s'attendre à ce que les grands, dans ce cas-là, continuent peut-être à huis clos la discussion avec les petits. Peut-être que les petits seront plus à l'aise d'aller voir grand frère, grande sœur pour en parler.
Oui. Puis ça, on le voit des fois. Moi, c'est arrivé, j'ai rencontré deux sœurs, une de 12-13 ans, si je ne me trompe pas, puis l'autre de 7-8 ans. Et puis là, celle de 8 ans, elle, à un moment donné, là, elle en avait assez. Fait que j'ai dit, garde, puis sa mère était aux soins palliatifs. J'étais toute seule avec les deux filles. J'ai dit, garde, va voir ta maman, c'est correct, blablabla. Et par la suite, quand je les ai vues la semaine d'après, on a vu que la petite sœur s'est retournée vers la grande sœur pour en parler. Et à ce moment-là, on s'assure justement aussi que la grande sœur ou le grand frère a le soutien nécessaire si jamais là, la petite sœur ou le petit frère en parle, mais c'est correct qu'ils en parlent entre eux.
OK. Soins palliatifs amènent à, bien sûr, parler de mort.
De la mort, oui.
Parce que ça fait partie de cette maladie. Malheureusement, les enfants, est-ce qu'ils ont des questions par rapport au décès de leurs parents?
Par rapport à la mort, oui. Encore là, je dirais, c'est toujours une question de développement, d'âge. Hein, on dit que la conception de la mort, les enfants en viennent à la comprendre, là, si on va garder ça général, vers l'âge de, on dit entre 8 et 10, mais plutôt vers 10 ans, sans prendre pour acquis qu'à 10 ans, ils comprennent tout.
Bien sûr.
Encore une fois, tout dépendant de l'âge, il y a des enfants plus matures que d'autres. Ça va dépendre de comment les parents en parlent aussi. Et souvent, la mort, même en tant qu'adulte, c'est un sujet, malheureusement, qui est encore très tabou.
Oui.
Cancer n'est pas nécessairement synonyme de mort ou de mort imminente, mais effectivement, on le relie. Et moi, je dis tout le temps, je le fais l'exercice avec les parents avant, quand j'ai la chance, de dire, si votre enfant vous demande si vous allez mourir, vous allez répondre quoi? Puis quand on y pense, la mort, ça fait partie de la vie. Et souvent, c'est ce qu'on peut répondre aux enfants, ben oui, hein, on vient au monde, on vit, puis après ça, quand on est vieux, on meurt. Et encore une fois, la mort est associée à la vieillesse. Mais souvent, moi, je vais même le demander aux enfants. La mort, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Comment tu vois ça? Puis on regarde aussi, c'est quoi les expériences qu'ils ont eues avec souvent des insectes ou des animaux.
Oui, oui.
Et c'est une bonne façon de leur expliquer, mais il ne faut jamais, puis là, je mets l'emphase, comparer la mort au sommeil, par exemple.
Oui.
OK? Donc, sinon, les enfants, après ça, vont avoir peur de dormir ou vont voir quelqu'un dormir, ils vont penser qu'il est mort. Donc, d'utiliser le mot « mort » et « décédé », c'est très important. Si on a à parler de la mort, il faut vraiment utiliser le bon mot.
Oui, et on va conclure là-dessus, Kimberly. Oui. Utiliser les bons mots en tout temps. Je lisais que parfois, certaines familles, certains parents vont utiliser un mot bien à eux pour désigner le cancer, pour éviter de dire le vrai mot, pour pas que les enfants comprennent quand ils discutent entre eux. Ce ne serait pas nécessairement recommandé non plus.
Bien, c'est pas nécessairement recommandé. C'est sûr qu'un enfant de 2 ans, qu'on lui dise que papa est très, 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 très malade, et ce qu'on dit avec le cancer, c'est de mettre le plus de mots « très », ça met l'emphase sur la gravité de la maladie, et de dire que c'est un bobo. Des fois, pour un enfant de 2 ans, bobo ou cancer changera pas grand-chose.
Bien sûr.
Mais dès que les enfants vont à l'école et sont exposés aux mots, Mais encore une fois, je pense que les parents doivent être à l'aise eux-mêmes avant tout.
Oui, c'est ce qu'on retient.
Ouais.
Kimberly Thibodeau, vous êtes travailleuse sociale au programme d'oncologie psychosociale du Centre universitaire de santé McGill.
Oui.
Vous étiez là pour nous parler de comment on peut parler aux enfants du cancer. Et tout ça en lien avec ce livre signé par Cassia Whitelaw, un
oui.
petit livre au sujet du cancer pour t'aider au travers des moments difficiles. C'est publié au Centre de bien-être de l'Ouest de Lille. C'est gratuit.
Mm-hmm.
On mettra toutes les coordonnées oui. nécessaires s'il y a des gens qui avaient envie de se le procurer.
Oui.
C'est un livre qui s'adresse aux enfants d'âge primaire. C'est des exercices, des jeux, un petit peu sous forme de journal intime. Vraiment très bien fait.
Oui.
D'ailleurs, vous pourriez l'utiliser, là. Vous l'utilisez vous-même?
Moi, je le recommande. Je l'utilise moi-même, mais j'ai commencé même à le distribuer à des collègues.
Alors, ça fera sa traînée de poudre,
oui.
ce petit livre-là. Kimberly, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler.
C'est un plaisir pour moi. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Florence Monet. Bonjour Florence.
Bonjour Marianne, comment ça va?
Ça va très bien vous-même.
Bien, bien.
Alors, hier, c'était la dernière édition de ces cours mini-psy que vous avez offert pendant tout l'automne du côté de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Est-ce que vous êtes satisfait de cette saison 2014?
Oui, vraiment. Écoutez, on a eu près de 400 personnes en tout, si on additionne les gens qui sont déplacés pour venir voir les quatre conférences sur des thèmes bien différents. Il faut vous dire que c'est la 9e année. Alors, l'an prochain, ça va faire 10 ans que ces conférences, qu'on appelle aussi des petits cours, parce qu'ils sont très participatifs, existent. Alors, on avait quatre thèmes. On avait trouvé le nirvana dans une tasse de café.
Ouais.
On avait les valeurs du travail quand elles nous envahissent, avec Michel Perrault, qui est un psychologue, qui parlait de dans le fond, comment garder le travail à sa juste place. On avait également Rosemarie Charret qui a parlé de la solitude. Est-ce qu'il faut la voir comme un fardeau ou comme une amie? Donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé les gens. Et le dernier, comme vous le disiez, c'était hier soir, en fait, retrouver le bien-être en renouant avec le corps et l'assiette.
Oui.
Et pour ça, on avait Jodie Hutchison, qui est psychologue et cofondatrice de la clinique Change, et Vanessa Perron, qui est une nutritionniste. Et donc, comme je vous dis ça, oui, c'est vraiment une édition qui a très, très bien marché, parce qu'en plus du volet où les gens viennent en personne, il y a aussi on peut les voir en vidéoconférence, et le Canal Savoir va les diffuser au printemps. Donc, c'est pour ça que je prends la peine d'en parler.
Oui.
Oui, et on sait que la version sur Canal Savoir attire beaucoup, beaucoup de monde habituellement. Alors, on invite les gens à aller regarder ça et également aussi être au rendez-vous l'an prochain avec une programmation renouvelée qui promet d'être intéressante, je pense.
Bien sûr, on suivra ça de près. Également, une belle fierté pour vous du côté de l'Institut avec ce prix remis à Michael Meaney,
oui.
je pense.
C'est Michael Meaney, en fait.
Meaney.
C'est un de nos grands chercheurs, on en a plusieurs, évidemment. Mais Dr Meaney est un un chercheur, un neurobiologiste qui s'occupe d'épigénétique. Et il a, comme vous l'avez mentionné, reçu le 3 novembre le prix Wilder Penfield. Alors, le prix Wilder Penfield, c'est un prix qui récompense l'ensemble d'une carrière scientifique dont l'objet de recherche appartient au domaine biomédical, ce qui est le cas de Michael Mini. Ça fait partie d'un des 14 prix du Québec, donc remis par le gouvernement du Québec en grande pompe. On était bien fiers. Michael Mini, ça a été l'un des premiers chercheurs à mettre en lumière comment les soins de la mère, les soins maternels peuvent modifier le développement cognitif de son enfant. Donc c'est un domaine très très neuf, hein, très très inconnu, ouais. Méconnu, et qu'on commence à explorer. Alors cette relation donc, entre les soins, le stress maternel, ce que vit la mère, influe sur l'expression des gènes qui sont responsables des réactions du comportement et même de tout le fonctionnement et la réaction au stress de l'enfant par le biais de l'hippocampe, qui est un petit organe qu'on connaît encore assez mal.
Ouais. De belles retombées de votre côté pour l'Institut.
Oui, il faut dire aussi que Michael Mini, il les collectionne, hein, les honneurs. Il avait eu quelques semaines auparavant le prix Klaus Jacobs de la recherche qui témoigne de réalisations novatrices en biologie du développement de l'enfant. C'est aussi un très gros prix. Et il est, faut le mentionner, bon, ça date d'un petit peu avant, mais chevalier de l'Ordre national du Québec, ça c'est 2007. Il a été aussi décrété scientifique de l'année en 2009 par Radio-Canada. Donc c'est quelqu'un qui collectionne les honneurs et qu'on lit souvent dans la presse internationale, le New York Times, etc.,
et qui est une belle fierté pour nous ici.
Tout à fait.
Ouais. Maintenant, une recherche, je dois vous avouer, Florence, qui m'a vraiment beaucoup interpellée, une recherche sur le suicide menée par la docteure Joanne Renaud qui démontre que si les intervenants en santé avaient plus de liens entre eux, on pourrait intervenir plus facilement chez les gens en détresse.
Oui, en fait, donc cette recherche, le docteur Renaud s'intéresse au suicide des jeunes, des enfants et des jeunes adultes, et c'est sur ce pan de la population que porte son enquête. Elle a pris dans le fond 67 cas de jeunes qui sont suicidés. Donc un groupe donc de victimes comparé avec un groupe témoin de sujets vivants, 56, pour voir un petit peu qu'est-ce qui a pu jouer un rôle dans le trajet de ces jeunes-là. Et on s'est rendu compte que dans bien des cas, bien sûr, ceux qui posaient ce geste-là avaient des antécédents de problèmes de santé mentale, et que souvent là où le bas avait blessé, c'est dans la communication, dans les soins prodigués. Si vous voulez, donc c'est pas qu'il n'ait pas eu accès aux soins, mais c'est que souvent ils étaient mal coordonnés et que l'information ne s'est pas rendue. Donc il y a vraiment tout un examen à faire de la façon dont le système marche une fois qu'on identifie un jeune à risque, comment le suivre, comment intervenir et comment faire le lien dans son dossier médical.
Oui, et parce que le suicide, c'est encore extrêmement préoccupant ici au Québec. Florence, parce que le temps file, je vous amène tout de suite à nous parler de cette vente de poinsettia qui aura lieu début décembre chez vous.
Oui. C'est le 4 et le 5 décembre. Ça, c'est une tradition qu'on a ici au Douglas. Vous savez qu'on a des serres, hein. C'est les plus vieilles serres au Québec, le plus vieux programme d'ortithérapie. On fait des ventes deux fois par année l'été. C'est des plantes vivaces, etc., des plantes pour le jardin. Mais à l'approche de Noël, le 4 et 5 décembre, on vend des petits poinsettias de 6 pouces. Cette année seulement, on n'a pas les 10 pouces, là. Et au profit des serres, donc des programmes pour aider les patients à vivre tous les bénéfices de l'ortithérapie. Oui. Alors, on vous invite donc, boulevard La Salle à Verdun, à venir nous voir. C'est entre 9h et 15h ces deux journées-là. Venez nombreux, mais enfin, en général, il y a pas mal de monde qui vient.
Et ça annonce bien la période des fêtes. Merci Florence Ménès, ça a été un plaisir.
Merci Marianne, au revoir.
Et nous, on se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Bye bye.